Chapitre 10. Quand Madame de Ferjolles se montra à la messe d'une des paroisses qui entourent Hollande, elle ne produisit donc pas cet effet de curiosité et de surprise qu'elle aurait produit dans un autre temps. La préoccupation, enthousiaste chez les uns, effrayée chez les autres, d'une révolution qui bouleversait toutes les têtes, même en Normandie, où le bon sens est séculaire, en attendant qu'elle les fît tomber, empêcha de beaucoup remarquer la venue de Madame de Ferjolles dans ce pays qui avait, du reste, presque oublié l'ancien scandale de son enlèvement. Le château d'Hollande, qui pendant tant d'années avait eu l'air de dormir au bord de la route où étaient plantées ses trois tourelles, ouvrit ses paupières un matin, c'est-à-dire ses persiennes noircies et moisies par l'action des temps et des pluies, et l'on vit passer aux fenêtres la blanche coiffe de la vieille Agathe. Le rideau intérieur de planches qui doublait la grille de la cour d'honneur disparut, et pour les rares passants de ces contrées, la vie, dans ses menus détails, sembla avoir repris sans bruit ce château frappé de la mort, pire que la mort, de l'abandon. Mais à la réflexion près de ceux qui passaient par là, le séjour de Madame de Ferjolles à Hollande ne fit pas plus d'étonnement et d'éclat dans le pays que son arrivée. Elle y vécut aussi solitaire, ne se cachant pas qu'elle y avait vécu cachée. Elle resta dans ce tête-à-tête avec sa fille, qui devait être toute sa vie et que toute autre présence que celle d'Agathe ne devait jamais troubler. Elle pensait toujours à ce tête-à-tête qui était pour elles deux, la mère et la fille, la fatalité de l'avenir. Aucun mariage, songeait-elle souvent, n'est plus possible pour l'asthénie. Comment dire à l'homme qu'il aimerait assez pour l'épouser et qui croirait en l'épousant épouser une jeune fille qu'elle n'était plus qu'une veuve et une veuve qui ne peut plus sortir de l'abjection de son veuvage? Comment faire la confidente du déshonneur de l'asthénie à un homme, oh, n'y eut-il que celui-là, sous la calotte des cieux, qui viendrait demander sa main à sa mère, avec toute la foi et toutes les espérances de l'amour? Probité, loyauté, religion, tous les atomes divins qui composaient cette noble femme se levaient en Madame de Ferjolles pour repousser une telle pensée, et de toutes celles qui lui crucifiaient l'âme, ce n'était pas la moins sanglante. Sans doute, dans l'état de prostration et de dépérissement où l'asthénie était plongée, elle ne pouvait plus inspirer que de la pitié. Mais elle était si jeune, et il y a de si puissantes ressources dans la jeunesse. Seulement, il n'y a pas de ressources contre la nécessité de dire la vérité, sous peine d'être infâme. Et c'est cette idée d'infamie qui liait l'existence et le destin de Madame de Ferjolles au destin et à l'existence de sa fille, et qui les condamnait à vivre ensemble dans cet isolement qu'elle ne connaissait que trop, le terrible isolement des âmes, quand les cœurs sont dans l'espace cœur contre cœur. Mais cette idée d'un homme qui aimerait un jour l'asthénie ne fut rien de plus qu'un rêve de sa mère, qui ajouta sa douleur à toutes celles que la réalité infligeait à Madame de Ferjolles. L'asthénie, chez qui Madame de Ferjolles avait cherché vainement un seul signe d'amour trahi, la triste nuit qu'elle devint mère, l'asthénie devait mourir sans être aimée. Sa beauté perdue ne refleurit pas. Elle ne lui revint point, ramenée par sa jeunesse. Quoi qu'elle eût dit à Agathe, le jour qu'elle revint de son pèlerinage, que l'asthénie allait mieux, Madame de Ferjolles, qui voulait le croire plus qu'elle ne le croyait, ne le crut plus du tout. Quand elle vit les jours et les mois s'entasser sur cette tête charmante naguère et la courber de plus en plus, pour qui aurait été au courant de l'histoire de l'asthénie, on aurait dit que cet accouchement dont elle n'était pas morte, et dont elle pouvait mourir, lui avait laissé, on ne sait quelle rupture de l'épine dorsale vers les reins, car elle était sortie du lit voûtée. Quand elle et sa mère paraissaient le dimanche à l'église, on comprenait en les voyant que Madame de Ferjol ne voulut recevoir personne pour se consacrer tout entière à la santé de sa fille. L'opinion fut que cet enfant qu'elle y traînait avec elle, elle ne l'y traînerait pas longtemps. Et cependant, elle y aurait traîné bien longtemps encore, si la Révolution, à son apogée sanglante et sacrilège, n'avait pas tout à coup fermé les églises. Madame de Ferjol, qui n'avait plus de raison pour cacher au médecin l'asthénie, en appela plusieurs à Hollande. Mais les médecins ne virent en cette jeune fille, aussi faible et languissante de corps que d'esprit, qu'un de ces marasmes dont la cause était pour eux impénétrable. La cause du marasme de l'asthénie, Madame de Ferjol seule dans l'univers la connaissait. C'était son péché, pensait-elle, et la coupable ne devait mourir que de son péché. Pour elle, la farouche janséniste, qui avait hélas plus de foi en la justice de Dieu qu'en sa miséricorde, c'était la rigoureuse justice de Dieu qui avait rompu sur son genou la taille de cette pauvre voûtée, cette taille autrefois d'épis balancée sur sa tige, qu'avait pressé les bras d'un homme. Cette tragédie intime dura longtemps entre ces deux femmes, au fond de cette campagne, qui ne ressemblait pas à l'entonnoir de ses veines, mais sur laquelle elles ne pensèrent jamais à jeter seulement un regard par les fenêtres de leur demeure. On n'y vit jamais que la tête d'Agathe qui y respirait le soir son pays. Et elles vécurent ainsi, si cela peut s'appeler vivre. Madame de Ferjol, certaine que sa fille n'échapperait pas à la punition de son péché, la regardait tomber jour par jour, sous le rongement du mal mystérieux qui la tuait, comme on regarde les débris d'un palais démoli tomber en poussière. Malgré tout ce qu'elle trouvait de criminel en cette fille qui lui avait résisté quand elle avait voulu savoir la vérité de son âme, malgré la dureté de sa foi religieuse, malgré tout, enfin, Madame de Ferjol souffrait de ce qui faisait souffrir l'asthénie. Mais, victime de la contraction de toute sa vie ramassée dans la mémoire de l'homme qu'elle avait idolâtré, elle n'exprimait pas de pitié à sa fille, qui n'était plus du reste capable de comprendre même la pitié qu'elle inspirait. Le marasme de l'asthénie qui déconcertait les médecins, et qu'après avoir vaguement parlé de moxa, il déclarait incurable, n'était pas seulement au corps de la jeune fille, mais à son âme. Il la tenait tout entière. La raison de l'asthénie, qui avait déjà rasé de si pâle idiotisme, pencha le peu de clarté qui lui était resté vers les ténèbres d'une sombre démence. Mais son silence garda sa folie. Elle se bourrait comme elle avait vécu, sans parler. Avait-elle encore conscience d'elle-même? Elle passait tous les jours sans dire un mot, oisive, immobile, la tête contre le mur, signe de folie triste, ne répondant pas même à Agathe, noyée de pitié et de larmes. À Agathe, désolée de n'avoir pas sous la main cette ressource sur laquelle elle avait trop longtemps compté, un prêtre qui exorcisa sa chérie, sa pauvre possédée. Les prêtres alors étaient en fuite, et la Révolution en pleine furie. Et on ne savait à haute onde que parce qu'il y manquait un prêtre pour exorciser l'asthénie. Chose unique peut-être, il y avait dans ce petit château de Hollande que la Révolution n'a pas détruit et qui subsiste toujours avec ses trois tourelles, trois âmes de femmes assez malheureuses pour oublier dans ce nid de douleur où elles s'étaient blotties tout ce qui n'était pas leur cœur saignant. Pendant que le sang des échafauds inondait la France, ces trois martyrs d'une vie fatale ne voyaient que celui de leur cœur qui coulait. C'est pendant cet oubli de la Révolution oubliée que succomba l'asthénie, emportant dans la tombe le secret de sa vie, que Madame de Ferjolles croyait son secret. Rien n'avait pu faire prévoir à Madame de Ferjolles et à Agathe que sa fin fût si proche. Elle n'était pas plus mal ce jour-là que la veille et les autres jours. Elle n'avait remarqué, ni dans sa figure, depuis longtemps d'une pâleur désespérée, ni dans l'égarement de ses yeux, de la couleur de la feuille des saules et des saules pleureurs, car elle en avait été un qui avait assez pleuré de larmes, ni dans l'affaissement de son corps inerte, si étrangement voûté, rien qui pût leur faire croire qu'elle allait mourir. D'ordinaire, elle n'avait pas besoin de la surveiller. Elle la laissait la tête contre le mur de sa chambre que sa tranquille démence avait adoptée. Et elles allaient et venaient dans cette maison où il n'y avait que deux choses éternelles. Madame de Ferjolles qui priait et Agathe qui pleurait, chacune dans son coin. Ce jour-là, elles la retrouvèrent comme elle l'avait laissée à la même place, la tête contre son mur, les yeux tout grands ouverts, quoiqu'elle fût morte et l'âme partie, cette pauvre âme qui n'était presque plus une âme. À cette vue, Agathe se jeta aux genoux de sa chérie, qu'elle lia passionnément avec ses bras, et sur laquelle elle roula en sanglotant sa vieille tête pâmée de douleur. Mais Madame de Ferjolles, qui contenait mieux l'émotion d'un pareil spectacle, glissa la main sous le sein de celle qu'elle avait appelée si longtemps de ce nom qui lui convenait tant, ma fillette, pour savoir si ce faible cœur qui battait là ne battait plus, et elle sentit quelque chose. Du sang, Agathe, fit-elle d'une voix horriblement creuse. Elle rapportait sur ses doigts quelques gouttes. Agathe s'arracha des genoux qu'elle embrassait, et à elles deux, elles ouvrirent le corsage. L'horreur les prit. L'asthénie s'était tuée, lentement tuée, en détail et en combien de temps, tous les jours un peu plus, avec des épingles. Elles en enlevèrent 18, fichées dans la région du cœur. Chapitre 11. Un jour, sous la Restauration, ni plus ni moins qu'un quart de siècle après la mort de cette Lastinie de Ferjolles dont j'ai dit la mystérieuse histoire, sa mère, la baronne de Ferjolles, qui lui avait survécu et qui vivait toujours, « Rien ne peut me tuer, disait-elle avec la sauvage amertume d'un reproche à Dieu qui l'avait épargnée. La baronne de Ferjolles dînait en grande cérémonie chez le comte du Lude, son parent, et par parenthèse l'un des meilleurs maîtres de maison de cette petite ville de Saint-Sauveur, où l'on avait beaucoup dansé avant la Révolution, et même elle, Madame de Ferjolles, alors Mademoiselle Jacqueline de Hollande, avec le bel officier blanc qui avait été son ange noir, car il l'avait vêtu de noir pour sa vie. À présent, on n'y dansait plus. Autre temps, autre mœurs. Mais on y dînait. Les dîners avaient remplacé la contredanse. Vieille deux fois par le chagrin et par les années, on pouvait peut-être s'étonner de rencontrer dans la fête d'un dîner joyeux Madame de Ferjolles, plus sévèrement pieuse que jamais, presque une sainte, si on pouvait être une sainte sans miséricorde. Elle y était pourtant, cette femme d'une force de caractère qu'on a pu juger, et l'ennemi de toute affectation extérieure, était revenue longtemps après la mort de sa fille, il est vrai, au monde de la société à laquelle elle appartenait, et elle s'y montrait, simplement et sobrement, mais enfin, elle s'y montrait. Elle y portait, stoïquement ensevelie dans sa poitrine, une idée qui était pour elle le cancer qu'on cache et qui vous mange le cœur sans qu'on pousse un cri. Cette idée, c'était l'impénétrable et l'inoubliable secret de sa fille, morte sans l'avoir révélé. Personne, nulle part, ne s'était jamais douté de ce que Madame de Ferjolles savait de la vie de sa fille. Mais ce qui la faisait le plus souffrir, ce n'était pas ce qu'elle en savait, c'était ce qu'elle n'en savait pas. Le saurait-elle jamais? Oh, elle ne le croyait plus. En attendant, elle achevait de vivre, désespérée, avec un front calme qui ne disait pas qu'elle le fût. Elle n'était plus qu'une ruine, mais c'était une ruine comme le Colisée. Elle en avait la grandeur et la majesté. Dans le bout de table où elle se tenait au dîner du comte du Lude, involontairement on parlait moins haut et l'on riait moins fort qu'à l'autre bout, disait le vicomte de Carqueville, qui aimait à rire et que la présence de cette grandiose vieille femme forçait d'être sérieux de respect. Ce jour-là, ce repas auquel elle assistait, comme elle assistait à la vie, avec indifférence, il y avait autour d'elle de l'entrain et de la sympathie, quoique la compagnie fût terriblement mêlée. C'était l'image raccourcie de cette société telle que nous l'ont faite la Révolution et l'Empire, qui ont confondu tous les rangs, mais on n'y souffrait pas, ce jour-là, de cette dégoûtante salade politique et sociale qu'il est maintenant impossible au gouvernement de tourner. Le comte du Lude appelait spirituellement son dîner la réunion des trois ordres. Et de fait, il y avait là du clergé, de la noblesse et du tiers. On y était très cordial et de très bonne humeur. Il est vrai que dans cette petite ville de Saint-Sauveur d'alors, il y avait plus de bonhomie qu'à Valognes, ville voisine, à 4 lieues de là, où pour peu qu'on fût un peu noble, on se croyait un paladin de Charlemagne, et où l'on vous aurait demandé vos lettres de noblesse pour vous inviter à dîner. Et ce que je vous conte là était si vrai, qu'à ce dîner où les coudes n'avaient pas horreur de se toucher les uns les autres, il y avait justement entre la marquise de Limors, la plus foncée en aristocratie des femmes qui étaient là, et le marquis de Pont-l'Abbé, d'une noblesse aussi vieille que son pont, un convive de gaillarde et superbe encolure, paysan d'origine très normande, mais qui s'était décrassé et qui était devenu un très authentique bourgeois de Paris. Il étalait alors son gilet de piqué blanc entre cette marquise et ce marquis, comme un écusson d'argent entre ces deux supports, dont l'un à dextre, la marquise, faisait la licorne et l'autre à sénestre, le marquis, faisait le lévrier. Ce bourgeois de Paris, en villégiature à Saint-Sauveur, il venait promener tous les ans ses loisirs, car il avait les loisirs d'une fortune faite, qu'il aurait volontiers défaite pour le plaisir de la refaire. Il s'ennuyait, il avait la nostalgie du commerçant qui a vendu son fonds. Une maladie spéciale. C'était en effet un ancien commerçant et, le croirait-on, un épicier. Mais c'était de la haute épicerie. Il avait été l'épicier de Sa Majesté Napoléon, empereur et roi, dans les plus beaux temps de sa gloire, et sa boutique, qui s'en est allée avec les autres maisons de la plate du Causel, avait 10 ans, regardé sans sourciller en face le palais des Tuileries, qui lui aussi s'en est allé. Cet impérial épicier, qui ne se serait certes pas donné pour le premier moutardier du pape, et qui était assis et se prélassait et se gorgeassait à la table du comte du Lude, comme un turcaret bon enfant, n'avait du reste ni le physique, ni le nom d'un épicier. Il se nommait d'un nom de général, il s'appelait Bataille. La Providence, qui se permet parfois ces plaisanteries, ayant prévu l'empereur Napoléon, avait trouvé spirituel d'appeler l'homme qui lui vendait son sucre et son café. Bataille, voilà pour le nom. Mais elle avait encore eu une autre fantaisie, la Providence. C'était d'avoir fait d'un épicier un des plus beaux hommes d'un temps où presque tous les hommes étaient si fièrement beaux, et que David et Jéricho nous ont peints pour l'humiliation de notre âge. On l'appelait parmi les cuisinières le bel épicier du carrousel. Il avait la tournure de son nom. Sa prestance était si militaire que, pendant l'Empire, quand il sortait du café de l'angle de la rue Saint-Nicaise, où il avait passé la soirée à jouer au domino, et qu'il avait mis sur sa tête le claque que tout le monde portait alors, et sur ses larges épaules son grand manteau galonné d'or au collet, les sentinelles de l'arcade des Tuileries lui portaient les armes comme un général, et il leur rendait le salut comme un général, avec un impayable sérieux et une emphase militaire qui faisait le bonheur de ses amis. Pendant une minute, il était vraiment général, mais il se retrouvait bien vite épicier. Il était de cerveau, un cerveau qui n'avait pas une idée quelconque à son service, ce qui expliquait sa belle santé à plus de 60 ans. Et quoi qu'il dise souvent, en fermant les yeux, comme s'il se retirait en lui-même, les mains jointes sur son estomac avec une expression indicible, « Je donne le bal à mes pensées !» Quel bal et quelle danseuse! Malgré cette vacuité cérébrale, il était fin comme un Normand, sous un drôle d'air niais et qu'il savait prendre, sans doute pour plaisanter. Car ce singulier homme, qui joignait le prénom de Gilles à son nom de bataille, n'en était pas un. Il avait, pendant l'Empire, rendu beaucoup de petits services aux hobereaux de sa province, pour lequel il s'était montré toujours respectueux et qui lui achetait ses cornichons par compatriotisme et par reconnaissance. Quelques-uns même d'entre eux lui remirent parfois des placets et des pétitions parce qu'il lui croyait des relations avec le palais. Mais toutes ces relations étaient Moustache, le cocher, et Zoé, la négresse de Joséphine. La chute de l'Empire dont il avait vécu n'avait pas entraîné la ruine de sa fortune. En 1814, il avait abdiqué sa boutique, comme Napoléon son empire, mais ce Napoléon de la haute épicerie n'eut point, comme l'autre, de retour de l'île d'Elbe, et il mourut sans avoir fait le sien en 1830 du choléra. Tel était le personnage original que le hasard et les révolutions avaient placé en face de Madame de Ferjolles à la table du comte du Lude. Il s'y tenait dans ce qu'il appelait son grand uniforme, car, se sachant beau, il avait toute sa vie mis en valeur par la toilette cette beauté qui subsistait encore. De fait, à le bien considérer, c'était un magnifique vieillard, relativement très jeune, très souple et très solide, et qui aimait à rappeler son inentamable solidité avec une fatuité hypocrite, quand il montrait d'un air qui mendiait la pitié un pouce très agile et qui se portait très bien, mais qu'il disait être resté paralysé depuis l'explosion de la machine infernale qu'il avait jetée, racontait-il, par la fenêtre du petit café de la rue Saint-Nicaise, au premier où il lisait tranquillement le journal, et précipité absolument fou jusqu'à Chaillot, d'où il se fit ramener à sa femme, qui tomba sans connaissance dans les mains du docteur Dubois, lequel lui extrayait des seins les vitres brisées de sa boutique. C'était la même, une de ses plus belles histoires. Le pauvre paralysé, comme il s'appelait en riant, le pauvre explosionné, avait mis ce jour-là, pour faire bonheur à son amphitryon, un habit bleu à boutons d'or qui moulait son torse d'Hercule, avec la culotte de Casimir blanc, les bas de soie à large côte, et ses souliers fins, à haut talon, aimés de l'empereur et qu'il portait toujours quand il était déboté. Gilles Bataille, que les nobles de province qui le recevaient chez eux appelaient un peu trop familièrement le père Bataille, car il n'avait rien à papa, reluisait d'une propreté anglaise qui sentait bon, comme le linge d'une femme. Il avait été blond, de ce blond qui rappelle d'origine scandinave de nous autres Normands, à ce qu'il paraissait, non plus à ses cheveux qui étaient blancs comme l'aile de l'albatros, et qu'il bordait très court. À la balle content, comme on a dit depuis, mais aux roses d'un teint qui n'était ni couperosé, ni fatigué, ni frelaté. Ce regard, gai et bleu, vous atteignait de dessous une paupière épaisse et un peu lourde, qu'il clignait comme s'il se fût moqué de ce qu'il disait et qu'il vous eût associé à sa moquerie. Ce à quoi sa vanité tenait le plus dans toute sa personne, c'était ses dents, qu'il soignait comme jamais femme n'a soigné les perles de son écrin, et qu'il montrait sans rire pour le plaisir silencieux de les montrer. Il était venu à ce dîner du comte du Lude, sa canne haute sur l'épaule comme un fusil, ce qui était sa manière habituelle de porter sa canne, un jonc indien. Et quand il l'eut laissée dans un angle du corridor, il était entré dans le salon, tenant avec ses deux mains son chapeau, comme un amoureux de l'ancien opéra comique chez son bailli, et il avait salué l'assemblée avec une niaiserie de paysan qui n'était peut-être pas sincère, car cet homme qui s'appelait Gilles aimait parfois à jouer au Gilles. Il connaissait depuis longtemps Madame de Ferjolles, devant laquelle il dînait et dont il était trop léger pour comprendre la profondeur. Pour lui, tout ce qui passait sa portée, il le traitait sans façon, et non sans mépris de manie. « Ce sont des manies, disait-il avec l'accent normand le plus allongé et le plus prononcé. Et quand il s'agissait de Madame de Ferjolles, la femme noble tenait le vilain en respect. On ne peut pas dire qu'il eut mauvais ton, il n'avait pas de ton. Où l'aurait-il pris? Est-ce à vendre des milliers de petits verres aux cuisinières des maisons riches qui venaient chez lui faire leur provision de thé ou de chocolat dès 6 heures du matin? « À 8 heures, j'avais fait ma journée, » disait-il avec orgueil. C'était en fait de ton un homme de l'ignorance de M. de Corbière qui mettait son mouchoir taché de tabac sur le bureau de Louis XVIII. Lui n'aurait pas mis le sien, un foulard, passé au bain-joint sur la table du comte du Lude, mais dès le commencement du repas, il avait mis sa tabatière qui était en chagrin, en miniature très fine. Le portrait de son fils en costume d'enfant de velours bleu, tenant dans sa main, sans en jouer, une trompette d'or, et qui avait le nez aussi en trompette, ce qui faisait 2 trompettes. Son fils, un exécrable môme, qui ne ressemblerait jamais à son père et qu'il appelait agréablement Bataillon. Or, ce fut justement à cause de cette diable de tabatière, passée à l'un des convives qui avait demandé à en voir de près le portrait, que le marquis de Pontabé l'avisa au petit doigt de la main qui la passait devant lui une émeraude qui lui donna dans l'œil. « Il faut que vous soyez fièrement coquet, maître Bataille, pour oser vous permettre de porter une bague de cette beauté et de ce prix-là, » dit le marquis de Pont-l'Abbé, scandalisé de voir un tel bijou à une main qui avait pesé des épices. « Mais voyons donc, où diable Bataille avez-vous pris cette merveille-là ?»« Ma foi, » dit rondement et gaiement le Gilles Bataille, « vous ne devineriez jamais où je l'ai prise. Et je paierais 50 000 écus, comme disait la maillonnée des grandes villes, votre 25 louis que vous n'êtes pas capable de le deviner. » « Allons donc, » fit le marquis de Pont-l'Abbé incrédule. « Eh bien, essayez pour voir, » repartit Bataille. Mais le vieux roquentin de marquis, qui s'était recueilli une minute et avait cherché, mais n'avait pas trouvé probablement une chose assez honnête pour la dire devant cette redoutable dévote de Madame de Ferjolles, qui du reste ne les écoutait pas, ne les entendait pas, de l'autre côté de la table, dans le rongement éternel du cancer qui lui mangeait le cœur. « Eh bien, » fit après le silence du marquis Gilles Bataille, « je l'ai prise au doigt d'un voleur. Je lui ai rendu la monnaie de sa pièce. Le voleur a été volé. Oh, c'est une chose curieuse. En voulez-vous l'histoire ?»« Oh oui, » dit le comte du Lude, Dites-la nous, la bataille. Cela nous aidera à faire passer ce Chambertin. Chapitre 12. Écoutez donc mon histoire, qui est une histoire de voleur, et qui remonte à haut, dit Gilles Bataille. Car l'empereur n'était pas encore l'empereur dans ce temps-là, ni moi son épicier, ajouta-t-il avec un geste de fierté impériale. Car l'empire était si grand qu'il donnait de la fierté même aux épiciers. Nous étions donc sous Barras, qui avait pris avec lui Fouché pour sa police. C'était déjà l'homme qu'on a vu plus tard, quand il fut ministre sous l'empereur. Mais dans ce temps-là, ce terrible Fouché, placé entre les Jacobins et les Chouans, comme entre deux tyrans de Sainte-Apolline, qui dirait chacun de leur côté, ne pouvait pas s'occuper, quand le diable y aurait été. Et il y était, d'une autre police que de l'infernale police politique du moment, et le gouvernement passait avant Paris. Or, vous, messieurs, qui viviez alors en province ou en émigration, vous ne pouvez pas avoir une idée de Paris dans ce temps-là, du Paris du lendemain de la Révolution, dans lequel elle grouillait encore. Ce n'était plus une capitale, ce n'était plus une ville, c'était une caverne, c'était une forêt de bondis. On y assassinait à la nuit comme on y couchait à la nuit. Les rues s'en réverbèrent. La Révolution en avait fait des potences, n'était éclairée que dans le quartier du Palais-Royal. Il y fourmillait dans les ténèbres un tas de coquins et de scélérats. C'était partout de noirs coupe-gorges. On y passait qu'armé jusqu'aux dents, ou plutôt, oh, n'y passait plus. Eh bien, une nuit de cet affreux temps-là, j'habitais alors à l'angle de la rue de Sèvres, dans une boutique dont je regarde toujours avec intérêt, car je passe par là à les barreaux de fer de l'aventure, et vous allez savoir pourquoi. Une nuit que j'avais fermée de bonne heure, et que je dormais dans une chambre en haut de ma boutique, un bruit singulier me réveilla. C'était un bruit comme de quelque chose qu'on scie. Et je me dis, il y a des voleurs en bas. Et je réveillais mon garçon de magasin qui dormait dans sa soupente, et nous descendîmes tous deux, nos rats de cave à la main. Et je ne m'étais pas trompé, c'était des voleurs. Ils étaient en ce moment occupés à scier le volet dont ils avaient coupé grand comme deux fois un faux chapeau quand nous arrivâmes. Et par ce trou fait dans le volet, une main était hardiment passée et avait empoigné un des barreaux de l'aventure et s'efforçait de le desceller. On ne voyait que cette main. L'homme à qui il appartenait était caché par le volet et il n'était pas seul, car j'entendais derrière le volet chuchoter plusieurs personnes qui parlaient très bas. Alors j'ai eu une idée. Je cliai de l'œil à mon garçon, un garçon d'ici, de Benville, que j'avais chez moi, un fort gars et pas manchot, comme vous allez le voir, et qui me comprit. Car il sauta sur la main que je lui montrais et qu'il saisit avec les deux siennes deux éclanches de boutons qui devinrent un étau et une pince pour cette main que je liais, moi, fortement au barreau de fer avec une corde prise sous le comptoir. « Tu travailleras plus, ma belle, » dis-je gaiement. Le bandit était agriffé. Je me réjouissais déjà in petto de voir la bonne figure qu'il ferait le lendemain au grand jour. « Allons nous coucher, » fis-je à mon garçon. Et nous remontâmes, moi dans mon lit, lui dans sa soupente. Mais au lit, je ne dormis pas bien. J'écoutais, malgré moi, toujours. Et au bout d'un certain temps, il me sembla entendre des pas qui s'éloignaient. Je n'osais mettre le nez à la fenêtre. Les brigands auraient très bien pu m'envoyer un coup de feu par la figure, et il n'en eût été que cela. « Je tenais à mon miroir, mademoiselle, » dit-il en souriant avec coquetterie de ses belles dents toujours jeunes qu'il montra. « Et d'ailleurs, je me dis que le lendemain, j'aurai ma vengeance. » Et dans cette douce pensée, je m'endormis. Il avait produit son intérêt, cet épicier, parmi tous ces aristocrates très bien élevés qui l'entouraient. Il l'écoutait, il le regardait, et il ne souriait plus, de cette belle tête dont ils enviaient peut-être la beauté, et de ces boucles d'oreilles que Gilles Bataille avait ridiculement gardées de sa jeunesse, et qu'il vengeait de sa belle tête en lui donnant l'air d'un vieux postillon. « Mais le lendemain, il fallut déchanter, messieurs, » reprit Gilles Bataille. « Vous comprenez tous, n'est-ce pas, que je m'éveillais de bonne heure et que mon premier regard, quand je décalais dans ma boutique, Bataille constellait tout ce qu'il disait des anciens mots de son patois. « Fut bon cette diable de main. Je savais bien qu'elle était liée à répétition, qu'elle n'avait pas pu bouger. Je l'avais cordée en conséquence. Mais quel ne fut pas mon étonnement. Au lieu de la trouver, comme je le croyais, gonflée, tuméfiée, violacée, presque noire par le fait de l'étranglement de cette rude corde dont je l'avais liée et que je lui avais fait entrer dans les chairs à force de la serrer, je la trouvais sans gonflement et pâle, comme s'il n'y roulait pas une goutte de sang. Elle semblait épuisée, et elle était molle et blanche comme la main d'une femme. Aussi, ne m'expliquant rien, et voulant m'expliquer tout, j'ouvris frénétiquement la porte de ma boutique et je regardai. À la place de l'homme que je croyais trouver là, il y avait une mare de sang. Ce n'était pas un éloquent que Gilles Bataille. Cet homme, qui avait été un petit pâtre de la lande de taille-pied dans son enfance, faisait en partant, parlant des pataquès que j'ai supprimés. Il disait d'habitude la petite pour l'appétit et nombril d'amis pour nombre d'amis. Il croyait même que cela s'orthographiait ainsi. Mais il eût été éloquent qu'il n'aurait pas produit plus d'effet, ma parole d'honneur. Il ne pensait pas à lui ce qu'il écoutait. Il pensait à ces voleurs qui avaient coupé le poignet à leur complice et qui l'avaient emporté. « De fiers hommes tout de même, » reprit Carqueville, qui était homme à en faire autant, car il était énergique. « Je rentrai dans ma boutique, » reprit Bataille, « et je regardai longtemps cette main, sciée à l'avant-bras, probablement avec la scie qui avait servi à scier le volet. J'étudiai cette curieuse main, qui n'avait pas l'air, je vous le jure, d'être la main d'un goujat. Et c'est alors que je vis une bague dont la pierre avait glissé du côté de l'intérieur du doigt qui avait pris la barre de fer, et cette pierre, monsieur le marquis, pour l'abbé, c'est l'ébrode que vous tenez là. Elle est vraiment trop belle pour moi, j'en conviens. Aussi, je ne la porte pas tous les jours, mais quelquefois, et seulement dans la pensée que je rencontrerai peut-être, qui sait, au hasard, la personne à qui elle a été volée, et qui à son tour m'aiderait peut-être à reconnaître le voleur. » Il avait fini son histoire, le Gilles Bataille, et il avait entassé sous elle les mauvaises plaisanteries du vieux Pont-l'Abbé. Il l'avait coupé, comme disent les Anglais. Tous, oh, ils étaient bien une vingtaine à ce dîner que le comte du Lude avait appelé la réunion des trois ordres, tous curieux et épris de cette émeraude, qui avait une histoire, ils la demandèrent pour la voir de plus près. Ils se la passèrent de main en main, et elle fit le tour de la table. Elle arriva enfin au voisin de gauche de madame de Ferjolles, qui était le père abbé d'une trappe qui s'établissait à cette époque dans la forêt de Beugbec, et qui depuis l'a défrichée. On sait que les abbés de la trappe n'étaient pas tenus à la règle du silence comme les autres trappistes. Ils portaient la mitre de laine et la crosse en bois. Ils allaient immédiatement après les évêques dans les conciles. Autorisés d'ailleurs à sortir de leur cloître quand il était nécessaire dans les intérêts de leur communauté. Le père Augustin s'en allait à la trappe de Mortagne et comme il passait par Saint-Sauveur, le comte du Lude l'avait prié à dîner pour faire honneur à la baronne de Ferjolles, la sainte de la contrée, et à sa table, il l'avait placé à côté d'elle. De cette vingtaine de personnes, il n'y avait maintenant que le père Augustin et la sombre madame de Ferjolles, qui fussent indifférents à cette émeraude, qui faisait son petit voyage circulaire, et, sans la regarder, le père Augustin la prit des mains du comte de Carqueville, son autre voisin, et la tendit à madame de Ferjolles, avec la gravité d'un homme qui fait malgré lui une chose légère. Mais Madame de Ferjolles, plus grave encore que lui, ne la prit pas. Seulement ses yeux, hautainement distraits par hasard, tombèrent sur l'émeraude. Et comme frappée d'une balle, elle poussa un cri et tomba raide, sans connaissance. Elle venait de reconnaître la bague de son mari qu'elle avait donnée à l'asthénie. Le coup qui la frappait encore produisit un coup d'étonnement sur les conviés du comte de Lude, qui égalait peut-être le sien, mais la fascination du respect un peu tremblant devant sa virilité, qu'exerçait cette femme était si grande que personne de ceux qui l'avaient vue ne parla depuis de l'évanouissement de Madame de Ferjolles. Sur cet évanouissement subit, qui faisait bien l'effet de cacher quelques drames, les langues furent liées et demeurèrent liées. Rentrée à Hollande le même soir, après être revenue de cette pâmoison, qui dura longtemps, elle se remit à regarder dans ce cancer béant qu'elle avait au cœur et dans lequel elle avait mis le linge blanc de tant d'inutiles compresses qu'elle en avait retiré toujours sanguinolente. Elle y vit avec horreur cette crevasse nouvelle que sa fille, la fille de Ferjolles, pourrait bien avoir aimé un voleur qui avait laissé la main qui le commettait dans la moitié de son crime. Non seulement le cancer ne s'arrêtait jamais, mais il se creusait toujours. Et ce n'était pas comme un de nos cancers de la chair, à qui on donne un morceau de viande à dévorer pour qu'il nous laisse tranquille quelques instants de ses morsures. « Mais cela ne finira donc jamais, Seigneur, dit-elle. Il faudra donc, mon Dieu, qu'elle soit inépuisable, cette angoisse. » Et avec le geste tragique de toute sa vie, qui lui faisait s'arracher à poignée sur ses tempes creuses, ses cheveux qui repoussaient toujours, elle se jeta aux pieds du crucifix, elle-même crucifiée, quand Agathe, sa suivante de douleur, Agathe qui avait 85 ans et qui, si l'on vit de douleur, pouvait bien mourir centenaire, entra et lui dit de sa voix de spectre « C'est le révérend père abbé de la Trappe de Briquebec qui demande à vous voir, madame. »« Qu'il entre, » dit madame de Ferjolles. Chapitre 13. Madame de Ferjolles avait encore un de ses genoux sur le prie-Dieu d'où elle se levait, quand le père Augustin entra. Il la salua avec respect, mais il était évident qu'il était ému, ce religieux grave et fort, et dans le milieu de la vie, et qu'en venant à Hollande, avec cette hâte inopinée, il y venait sous l'injonction d'un grand devoir. « Madame, dit-il sans préambule en restant debout, malgré le signe qu'elle lui fit de s'asseoir, je viens vous apporter la bague qui vous appartient et qu'hier vous avez reconnue. Et vous dire le nom, ajouta-t-il avec une triste solennité, de l'homme qu'il a perdu avec sa main. Un petit tremblement prit Madame de Ferjolles à ces paroles et le moine lui tendit la bague qu'elle ne prit pas. Il aurait été impossible à ce moment de toucher à cette bague profanée et souillée, 10 fois profanée et souillée, et prise à la main, coupée d'un voleur. « Le nom !» dit-elle, surprise et balbutiante. « Oui, madame, répondit le moine, le nom de l'homme qui a fait le malheur de votre vie et que vous avez dû bien des fois maudire. Le nom de cet homme qui s'appelait en religion le père Riculf de l'ordre des Capucins, hébergé chez vous pendant tout un carême, il y a tout à l'heure 25 ans. Ah, ce nom, madame de Ferjolles, devint pâle comme si elle allait mourir. Mais elle ramassa son âme énergique pour faire la question, la terrible question, d'où dépendait toute sa vie. Et n'avez-vous que cela à m'apprendre, mon père ? Dit-elle en le regardant de ses yeux profonds, de ses yeux sous lesquels l'asthénie, la pauvre l'asthénie, avait toujours baissé les siens. J'ai tout à vous apprendre, madame, car il m'a tout raconté, réconcilié avec Dieu, sur la cendre où meurt notre ordre et où il est mort. Et il a déclaré, il y a à peine quelques jours, sur le crucifix que je lui faisais baiser à cette heure suprême, qu'il a été le seul coupable et que votre fille était innocente de son crime. Alors, c'est moi, dit madame de Ferjolles, qui fut traversée d'un éclair qui lui fit voir en saluant rapide toute sa vie. Oh, ce n'est pas à moi de vous juger, madame, interrompit le trappiste avec une incomparable dignité. Je n'ai à vous annoncer que cette bonne nouvelle, pour une âme aussi pieuse que la vôtre, c'est que votre fille était innocente. C'est que l'ange invisible que Dieu a mis à son côté, l'ange gardien de sa vie, a pu toujours rester aussi résister au sien et la regarder de ses yeux purs et immortels. Il s'arrêta, étonné que la joie de ce moment n'inondât pas l'âme de cette femme pieuse. Il ne pensait pas au remords qui entrait du même coup dans cette âme profonde, le remords d'avoir cru l'asthénie coupable, et sous cette erreur de l'avoir si lentement et si tragiquement fait mourir. « Oh, mon père !» dit madame de Ferjolles, « la bonne nouvelle vient trop tard. C'est moi qui ai tué l'asthénie. L'homme, le prêtre, au péché de qui je n'ai jamais voulu croire, et qui a fait pis que de la tuer, ne l'avait pas tuée en la prenant dans ses bras sacrilège. Il ne l'avait que souillée et flétrie. Mais il me l'avait laissée à tuer, et je l'ai tuée. J'ai achevé par la mort de ma fille le crime qu'il avait commencé. » Elle resta la tête basse après avoir dit cela. Elle s'était jugée. Le prêtre voyait bien qu'intérieurement elle se déchirait, et il eut pour elle la pitié qu'elle n'avait pas eue pour l'asthénie. Il s'assit et lui parla avec une charité divine. Il lui dit que ce qu'elle souffrait était de trop, qu'elle était la victime d'une erreur dont il était impossible qu'elle ne fût pas la victime. Et alors il lui raconta le crime de Riculf. Dans ce temps-là, la science, devenue maintenant populaire, n'avait que des observations superficielles et inexactes sur des faits mystérieux à présent avérés, mais dont elle sait encore qu'une seule chose, c'est qu'ils existent. L'asthénie était somnambule, comme l'a dit Macbeth. Mais madame de Ferjolles n'avait peut-être pas lu Shakespeare. Or, c'est dans un de ces accès de somnambulisme, ignoré tant ils étaient rares, de madame de Ferjolles et d'Agathe, que le père Riculf l'avait surprise, une nuit, sortie de sa chambre et assise dans le grand escalier, endormie là, où elle avait passé tant d'heures dans son enfance éveillée et rêveuse, et que, tenté par le démon des nuits solitaires, il avait accompli sur elle ce crime dont la malheureuse enfant n'avait pas eu conscience dans l'ignorance de son sommeil et dont seul il devait répondre un jour devant Dieu. Seulement, pourquoi le crime consommé lui avait-il dérobé sa bague? Était-il déjà le voleur qui devait être un jour le voleur à la main coupée qui était devenu? Question sans réponse. On se perd dans ces gouffres de mystère qu'on appelle la nature humaine. Les somnambules donnent quelquefois des bagues, et cela ne prouve rien. Pour ma part, j'en ai connu une jeune fille, qui avait donné la sienne à un homme coupable du même crime que Riculf sur l'asthénie, et qui avait volontairement épousé l'effroyable fiancé de son sommeil, quoique avec une horreur invincible. Ne voulant pas avoir à rougir devant cet homme, la noble fille était morte après des années, mariée, en lui gardant une épouvantable fidélité. Madame de Ferjol, qui n'avait jamais entendu parler de somnambulisme dans sa solitude des Cévennes, resta stupéfaite au récit de l'abbé de la Trappe. Elle était médusée par le crime de cet homme fléau, qui avait passé dans sa vie et celle de sa fille comme un vampire, et qui, de la monstruosité tombant dans l'ignominie, avait fini par cette vileté d'être un voleur. Ici, la femme de race revint du fond de la mer indignée, et l'idée, l'abjecte idée du voleur, lui sembla plus insupportable à admettre que le crime même sur l'asthénie, consommé lâchement pendant le sommeil. Elle douta un instant de cette dernière turpitude qui lui souillait deux fois sa fille, mais l'abbé de Bricbec lui dit que la main coupée était bien la main du capucin Riculf, et que le malheureux, en effet, avait été réellement un des premiers bandits du siècle. Quand Agathe l'avait rencontré descendant les marches de cet escalier qui avait vu son crime, et laissant derrière lui le grand calvaire placé à la sortie du bourg, il était allé à tous les vices. Il cuisait alors dans la chaudière où la révolution bouillait, prête à déborder sur le monde. C'était l'heure où l'Église elle-même avait besoin de persécution et de se retremper dans le sang des martyrs. Quand Riculf sortait par un crime de son ordre, Chabot, le capucin de la Révolution, en sortait peut-être aussi. Mais Riculf avait cette supériorité sur Chabot, qui s'était repenti plus tard. Après des années d'une vie de forfait, il était arrivé un soir à la Trappe de Bricbec, dans le plus affreux désespoir, montrant d'un de ses repentirs qui ne prennent que les armes puissantes. « Si vous me chassez, dit-il à l'abbé, vous me renverrez à l'enfer d'où je sors. Et moi et mes frères, dit l'abbé à Madame de Ferjol. Nous nous souvînmes que la Trappe, c'est le refuge des criminels qui ne sont pas punis par les hommes, et nous ouvrîmes les portes de la nôtre à celui-ci, et nous les fermâmes sur lui contre la justice du monde, au nom de la bonté du ciel. Le père Riculf était une de ces âmes qui en rien ne connaissent de limites. Il a vécu des années parmi nous, dans la plus expiatrice des pénitences. « Et il est mort comme un saint, n'est-ce pas ?» interrompit Madame de Ferjol, révoltée et en éclatant de la plus amère des ironies. Mais, se reprenant et d'un ton moins insultant, « Mon père, dit-elle, pouvez-vous croire qu'un pareil homme puisse jamais entrer dans le ciel ?»« Du moins, dit le miséricordieux prêtre, il a vécu des années et il est mort comme quelqu'un qui veut y monter. S'il est au ciel, « je n'en voudrais pas avec lui, » dit Madame de Ferjol avec une obstination, devenue un entêtement aveugle, presque de la rage. Le doux prêtre fut blessé au plus profond de sa charité, mais il n'abandonna pas l'impitoyable femme. Il revint plus d'une fois la voir à Hollande. Il aurait voulu ramener à des sentiments plus chrétiens cette âme si religieuse par la foi, mais il ne pouvait pas. Cette âme résistait. Une haine née du ressentiment que de savoir sa fille innocente avait augmenté pour l'homme du crime, comme elle l'appelait, confisquait à son profit les autres sentiments de son âme. Dieu avait pardonné peut-être, mais elle, non. Elle ne pardonnerait pas. Elle ne voulait pas pardonner. Sa haine devint une possession. Elle fut la possédée de la haine. Rien n'y put de ce que lui dit l'abbé Augustin, qui s'efforçait d'introduire dans cette âme violente et ulcérée l'huile adoucissante que le bon samaritain fit couler dans le blessure de l'homme de l'Évangile qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Madame de Ferjol l'opposait inflexiblement aux paroles de l'abbé et à tout, l'idée de cet outrage fait à l'hospitalité, trahie par ce prêtre, qu'elle appelait un Judas. Et même un jour, cette haine féconda un affreux désir. « Je chose étrange et que toutes les âmes passionnées comprendront. Il se dégagea de sa haine une horrible curiosité qu'elle savait pouvoir satisfaire. Elle, qui n'ignorait rien des choses religieuses, elle savait que les trappistes, qu'on enterre sans cercueil la face découverte, restent exposés dans leur tombe, où tous les jours, chacun des leurs vient jeter sa pelletée de terre, jusqu'à ce qu'ils en aient cette suffisance de 6 pieds d'argile qui nous suffit à tous, hélas. Eh bien, elle voulut voir encore une fois ce ricule faboré et repaître ses yeux du spectacle de son cadavre. La haine est comme l'amour, elle veut voir. Il n'y a pas, se dit-elle, si longtemps qu'il est mort. Les bienheureux n'ont pas une figure comme les autres hommes. Quand on ouvre la terre ou le cercueil qui les renferme, on leur trouve des figures reposées et quelquefois rayonnantes, qui disent qu'ils sont morts dans la bonne odeur du ciel. Je verrai donc si le scélérat, qui a peut-être fait dupe de son repentir l'abbé Augustin, que m'avait fait dupe de sa sainteté à la fin d'un bienheureux. Et sans le dire à la vieille Agathe, elle s'en alla à Bricbec. Un jour, les femmes n'entrent jamais chez les trappistes, sinon un certain jour de fête et dans leurs églises seulement. Mais leur cimetière, placé dans un champ à côté de leur monastère, est ouvert à tout le monde. Il passe qui veut, et elle entra. Elle trouva sans peine la fosse qu'elle cherchait. Le cimetière était désert, et la fosse du dernier trappiste décédé, creusée dans les hautes herbes, était bien la fosse de Riculf. Elle s'en approcha jusqu'au bord et regarda dedans avec ses yeux que la haine a comme l'amour, ses yeux qui dévorent tout, et elle vit le mort dans le fond de sa fosse. Malgré les pelletées de terre éparpillées autour du visage, dont le plus grand nombre avait porté sur la partie inférieure du cadavre, on voyait encore la face d'un homme. Ah, elle le reconnut, malgré cette barbe qui avait blanchi et ses yeux sans regard, que les vers rongeaient déjà dans leurs orbites. Elle enviait le sort de ses vers. Elle aurait voulu être de ses vers. Elle reconnut cette bouche audacieuse qu'il avait tant frappée dans les Cévennes et dans laquelle Dieu lui-même avait écrit de sa main qu'il fallait se défier de cette bouche terrible. Elle était debout devant cette fosse, la contemplant, oubliant les heures, plongeait les yeux dans ce trou où allait pourrir l'homme de sa haine, comme le soleil d'une soirée d'été plongeait à l'horizon. Elle l'avait dans le dos, ce soleil, et sa grande ombre à elle tombait dans la fosse, allongée par ce soleil qui se couchait en rougissant ses vêtements noirs de ses rayons. Tout à coup, une autre ombre s'allongea près de la sienne, et une main se posa sur son bras. Elle tressaillit, c'était l'abbé Augustin. « C'est vous, madame ? » fit-il plus grave qu'étonné. « Oui, dit-elle avec une profondeur d'accent qu'il fit frémir, j'ai voulu en régaler ma haine. « Oh, madame, dit le prêtre, vous êtes une chrétienne, ce que vous dites n'est pas chrétien. Mais d'y regarder un mort dans sa tombe avec les yeux de la haine, c'est le profaner et on doit le respect aux morts. Ah, « Celui-là, jamais !» fit-elle. J'avais tout à l'heure envie de descendre dans sa tombe pour le fouler sous mes talons. Pauvre femme, dit le prêtre, elle mourra dans la pénitence finale de sentiments trop absolus pour la vie. Et en effet, elle mourut à quelque temps de là, dans cette impénitence sublime que le monde peut admirer. Mais nous, non !